Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, le magazine en deux temps et à deux vitesses. Deux vitesses, oui, parce que vous pouvez nous choper dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, ou bien attendre minuit. 22h à minuit, à l'antenne comme tout le monde. Et en deux temps, une émission en deux temps. Eh oui, parce que la première partie, c'est l'actualité et la musique live. Et la deuxième heure est enrichie par les archives extraordinaires de France Inter. L'actualité ce soir, c'est immigration, dossier Macron. Que cherche Emmanuel Macron quand il remet en question l'ouverture des frontières? C'était lundi 16 septembre devant les députés de La République En Marche. Que veut-il dire quand il annonce qu'il va falloir regarder le sujet en face et non plus se voiler la face, ni se boucher les oreilles, ni fermer sa gueule, comme les trois petits singes. Position dure, hantée par les discours de l'extrême droite, retour du refoulé chevènementiste. Et pourquoi aujourd'hui une telle prise de parole? On a plein d'autres questions à poser à nos invités. Des questions placées sous le signe d'un titre, peut-être, Christophe Bourseiller.
Bah, j'en ai plusieurs. Moi, le plus sérieux, évidemment, c'était Macron, deux points, vers l'immigration zéro, point d'interrogation. Oui, je suis très... Sinon, j'avais pensé, les visiteurs du soir ne sont plus les bienvenus, point d'interrogation. Panic room pour Macron. Enfin bon, bref. Ou alors, Macron et l'immigration, un peu beaucoup, parce ou pas du tout, enfin, divers titres.
C'est pas mal.
Merci.
Vous avez bien bossé.
Je fais ce que je peux.
Ouverture totale, en revanche, sur le plan musical avec Marion Guilbeault qui ne connaît pas de frontières.
Non, je leur ai offert l'asile musical à Temples.
Vous savez combien ça nous coûte?
Ah, très cher, très cher. Quatre Anglais qui ressuscitent le psychédélisme.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV la suite. France Inter, plus de Sigmund Freud ce soir, au lendemain des 80 ans de sa mort, au programme Les rêves sur le divan. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant de commencer, je vous propose un tour de table pour vous présenter nos invités. Hervé Nathan, vous êtes journaliste chroniqueur à Alternatives Économiques. Bonsoir.
Bonsoir.
Violaine Carrère, vous êtes juriste chargée de Justice, le groupe d'information et de soutien aux immigrés. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Mounir Majoubi, vous êtes député La République En Marche de Paris.
Bonsoir.
Et enfin Jacques de Guibon, essayiste, rédacteur en chef de L'Incorrect. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est à vous, Christophe.
C'est moi qui démarre?
Ouais.
Ah bah pourquoi
éditorial.
Pas. C'est une bonne idée, c'est original.
Oui.
En tout cas, moi, ce qui
c'est
me frappe, Laurent.
Ça,
bon. Oui, j'essaie un peu de jouer la nouveauté, si vous voulez. Ce qui me frappe, Laurent, c'est le fait que les femmes et les hommes politiques nous ont habitués à une sorte de langue de bois, pleine de promesses vagues, de bons sentiments mielleux. Prenez, par exemple, la campagne des municipales qui démarre. Vous apprendrez qu'il faut, je cite, rendre Paris aux Parisiens. De même, on pourrait rendre Montauban aux Montalbanais, rendre Bourges aux Berruyers ou rendre Castres aux Castrés. Alors, nous devons, Laurent, c'est toujours la langue de bois, mettre en place un train de réforme pour affronter les défis tout en nous plaçant à l'avant-garde du combat pour la planète.
Les défis du futur, j'imagine.
Oui, tout à fait. Vous voyez, Laurent, je me demande bien qui est contre la planète. Moi, il faut me présenter cet Ostrogoth qui serait contre la planète puisqu'il y a un combat pour la planète. Enfin bref. Et soudain, un politicien s'extrait de la langue de bois et tout le monde s'inquiète, voire proteste. Alors, il s'exprime certes, ce politicien qui s'appelle Macron, sur un sujet sensible, l'immigration, et envisage un contrôle accru des flux migratoires. Alors c'est vrai que la France est historiquement, Laurent, une terre d'asile et c'est formidable. Seule demeure la question du nombre grandissant de ceux qui frappent à la porte. Est-il matériellement et psychologiquement possible de les accueillir? Telle est la question que tout le monde se pose. Mounir Majoubi, vous êtes député La République En Marche de Paris 19. Quand Macron dit, par exemple dans un récent discours devant les députés, les bourgeois du centre-ville, eux, ils sont à l'abri. Quand il dit ça, c'est du populisme ou vous partagez ce constat?
Je vais vous dire le constat que je partage au quotidien dans ma circonscription. Je suis le député de la Porte d'Aubervilliers et de la Porte de la Villette. Ce matin, j'ai fait venir 10 députés à la Porte de la Chapelle et à la Porte d'Aubervilliers pour voir la réalité de ce que sont ces camps de migrants. Ce que sont ces camps de personnes qui ont traversé des territoires, qui sont ici. Et pour certains ont des statuts de réfugiés et pourtant n'ont pas de logement et sont à la rue. Dont certains ont été déboutés du droit d'asile et ne pourront pas déposer de demande. Dont certains, eh bien, sont simplement des primo-demandeurs et veulent simplement qu'on traite leurs demandes et qu'on aille jusqu'au bout. Eh bien, moi, j'ai voulu que mes collègues députés, la présidente de la commission des lois, le président de la commission économique était là, une dizaine d'entre eux m'ont accompagné pour parler avec les riverains. Les riverains et les associations de riverains qui ont dit « On est déjà les plus pauvres de Paris. Ce sont les HLM où les gens les plus pauvres de Paris habitent. » Au bord du
le nord de Paris, hein, pour ceux
le
qui
nord-est
n'habitent pas
de Paris, c'est l'arrondissement le plus pauvre, mais aussi le plus jeune, le plus dynamique, celui que j'aime le plus, celui où j'habite. Mais c'est le plus pauvre. Et en plus de ça, depuis quelques mois, depuis un peu plus de 12-18 mois, il y a ces personnes qui vivent dans les contrepans du périphérique et qui sont aujourd'hui entre 1500 et 2000
ah oui, c'est
à vivre dans la misère la plus absolue. Ce matin, on était avec les associations, on les a écoutés. Donc quand Emmanuel Macron dit, faites attention, parce que dans le 7e arrondissement, parfois, on les voit pas, ces gens. Faites attention parce que parfois, quand on débat tous ensemble, on oublie d'aller dans la réalité et sur la réalité du terrain. Bien, moi, cette réalité, je la vis au quotidien et j'ai voulu la faire vivre à certains de mes collègues. Mais qu'est-ce que c'est cette réalité? Cette réalité, c'est un, accueillir ceux à qui on souhaite donner le droit d'asile et qui bénéficient de ce droit d'asile, accueillir les réfugiés dignement. Les accueillir dignement, ça veut dire les accueillir, les héberger quand ils arrivent, ça veut dire traiter leurs demandes rapidement, et ça veut dire, une fois qu'on leur donne ce statut, de les intégrer dans notre société. C'est ça les défis que le président a soulignés. Nous sommes une terre d'immigration et nous allons accueillir ces personnes-là. Et puis il dit aussi, pour pouvoir les accueillir dignement, pour qu'on ait les moyens de les accueillir dignement, bah, il faut qu'on lutte contre l'immigration illégale. Et l'immigration illégale, il n'y a pas de recette simple. Ça commence dans le pays d'origine, ça se poursuit sur les frontières, puis ça se poursuit ensuite sur le territoire, et ça va jusqu'à, et c'est toujours la solution qu'on ne souhaite pas utiliser, jusqu'à l'expulsion. Mais c'est un continuum. Et ce qu'il a appelé le président de ses voeux, c'est qu'on réfléchisse dans la plus grande complexité de cette question et qu'on aille sur chacun de ces sujets apporter des solutions.
Jacques de Guimont, comment vous avez accueilli les voeux du président?
Ben, je suis un peu étonné qu'on soit stupéfait en fait qu'un président de la République en 2019 en France s'aperçoive que l'immigration est peut-être un problème en fait et qu'il faudrait peut-être s'en occuper. Ça fait 40 ans qu'on le dit, que des gens le disent, ça n'a fait que empirer. Et on se dit, tiens, c'est incroyable, tout d'un coup, il a ouvert les yeux, il a enlevé les mains de ses oreilles, de sa bouche, comme les petits singes dont il parle. Alors, la question des réfugiés, on est d'accord, moi aussi j'habite à une porte de Paris et je vois aussi ces réfugiés-là. La question, c'est pas que de limiter l'immigration illégale, je pense que c'est un peu simple, parce que l'accueil des réfugiés, on ne peut pas le faire non plus. Les réfugiés qui ont droit au droit d'asile, c'est peut-être quoi, 20 000 personnes en France ou 30 000, enfin ça dépend. Déjà, une bonne partie ne sont pas renvoyées chez eux une fois qu'ils ont été déboutés, ça c'est déjà un problème qui relève de l'État. Ensuite, il y a aussi l'immigration légale, c'est-à-dire les visas qu'on donne à certains pays en masse, qui empêchent aussi qu'on puisse accueillir dignement les personnes qui ont ce droit-là, en fait. Donc je pense que lutter contre ces problèmes que crée l'immigration aujourd'hui, c'est aussi se poser la question de l'immigration légale, en quoi elle est aussi étendue aujourd'hui, et en quoi on a un solde migratoire de presque 200 000 personnes depuis 30 ans peut-être, 40 ans, ce qui fait une bonne masse de personnes à la fin additionnées.
Violaine Carrère, regardez, quand Macron dit, en prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. Ça vous choque?
De toute façon, même si ça me choquait, ça ne serait pas vraiment une nouveauté, parce que les oppositions de ce genre et les associations de ce genre, humanisme, laxisme, ça fait très longtemps qu'on les entend, ça fait au moins 10 ans, Sarkozy avait le même genre de vocabulaire, et bien d'autres avant lui et après lui. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'on parle d'immigration, et j'ai l'impression qu'on ne sait pas très bien de quoi on est en train de parler.
Est-ce qu'on parle des réfugiés, est-ce qu'on parle des migrants, est-ce qu'on parle d'immigration?
Le terme immigration, avec son préfixe, il évoque l'idée de gens qui arrivent. Alors, je corrige tout de suite une chose, le solde migratoire en France, il n'est pas du tout ce qui vient d'être dit, il est, selon les années, entre 10 000 et 50 000 personnes.
Non,
le solde,
vous
ça
vous
veut
enlevez,
dire...
Non, vous enlevez les Français qui partent, vous allez qui partent de France.
Me laissez finir, si vous voulez bien. Ce qu'on appelle en démographie le solde migratoire, c'est ce qui reste une fois qu'on a compté les entrées et compté les sorties. Et ce qui reste, c'est 10 000 à 50 000 personnes. Donc voilà, c'est pas tout à fait les chiffres qu'on
imagine. C'est le solde migratoire des immigrés, c'est ça?
D'autre part, alors évidemment, si on parle d'immigration, on pense tout de suite évidemment aux personnes qui sont dans les camps au Port de la Chapelle ou dans le 19e qu'évoquait Monsieur Majoubi, ou qu'on a vu dans le bidonville de Calais dont des images ont été diffusées dans le monde entier, ou qu'on voit dans certains endroits du territoire, et où ceux dont on parle quand on parle de morts en Méditerranée, on pense à des gens qui arrivent. Et évidemment, les gens qui arrivent de tout temps, et ça n'est pas spécifique à la France de 2019, c'est des gens qui inquiètent, qui font peur, et on se demande combien de temps, et etc. Mais l'immigration, et ce dont on parle après lorsqu'on nous parle d'insécurité, d'identité culturelle, lorsqu'on nous parle d'intégration, lorsqu'on nous parle de choses comme ça, lorsqu'on nous parle des bourgeois et des pauvres, et j'aimerais bien revenir sur cette histoire-là aussi, eh bien, on ne parle pas forcément de ceux qui arrivent. On parle éventuellement de ceux qui sont là depuis 5, 10, 15, 20, 50 ans, ou qui sont des descendants d'immigrés première, deuxième, troisième, quatrième génération. De quoi parle-t-on exactement?
Alors peut-être, on pourrait comprendre de quoi parle-t-on exactement en regardant un petit peu l'évolution du sujet traité par Emmanuel Macron, un sujet sensible qu'il aborde depuis longtemps. Petit mix depuis le 7 septembre 2015, quand il était candidat, jusqu'à la semaine dernière à Rome.
C'est une opportunité pour nous tous. C'est d'abord notre dignité et c'est aussi une opportunité économique parce qu'il s'agit de femmes et d'hommes qui ont aussi des qualifications remarquables.
Sur ce sujet, vous savez, il faut se garder des faux bons sentiments. Lorsque des associations encouragent ces femmes et ces hommes à s'installer dans l'illégalité, jamais elles n'auront l'État à leur côté.
Je le dis à tous les donneurs de leçons, Allez m'expliquer qu'il faudrait accueillir tout le monde.
C'est notre volonté commune d'avoir au niveau européen une plus grande harmonisation du droit d'asile, plus de coopération et une politique plus efficace de réadmission vers les pays d'origine lorsque les cas ne relèvent pas de l'asile.
Hervé Nathan, en fait, le président est complètement cohérent depuis qu'il est candidat.
Pas tellement.
Pas tellement, non, en effet. Ouais.
Là, vous avez fait un bon résumé. On parle de l'opportunité, on part de l'opportunité économique au moment où il est en campagne et maintenant on passe par les donneurs de sang. Je pense que ça s'adresse à vous. L'illégalité, ça doit s'en parler à mon collègue de droite.
Alors, le donneur de sang, vous avez désigné Violette
Carrère, Jacques de Guilbon. Vous avez épargné voilà, Mounir Majoubi
pour l'instant.
Je pense qu'il y en aura pour lui à un moment donné dans la discussion. Ce qui m'a frappé quand j'ai entendu ce qu'on a raconté de ce qu'a dit le président de la République devant quelques députés, quelques dizaines au moins ou quelques centaines de députés, vous étiez nombreux, c'est que tout d'un coup le président de la République voulait parler d'immigration et moi ça me semble spontanément j'ai dit ben oui pourquoi pas parlons-en d'immigration parce que moi je pense qu'on n'a peut-être pas parlé assez et assez dans les détails au moment là, par exemple au moment où on doit en discuter
c'était pas inscrit dans le débat national.
Absolument, c'était pas vraiment dans la campagne électorale non plus parce qu'on a assez peu parlé, beaucoup parlé d'Europe, assez peu d'immigration. Et aujourd'hui, on va en parler, excusez-moi pour le dire, on va en parler pour rien, je vais directement au but, le lundi, il y aura
Alors,
un débat.
Le 30 septembre, débat à l'Assemblée nationale.
Il y a un texte du gouvernement, il y aura un vote. C'est une question que je vous pose, monsieur Majoubi, vous avez fait un débat sans vote. À quoi ça sert de faire un débat sans vote au moment où, effectivement, il y a une partie des Français, et on ne peut pas le nier, pour qui la cohabitation, l'arrivée, etc., semble poser des problèmes. Peut-être qu'ils ont tort, ces gens-là, de dire que ça nous pose des problèmes. Encore que moi je suis assez réservé sur la question. Le solde migratoire, madame, je suis désolé de vous le dire, et je vais donner raison à quelqu'un avec qui je suis en désaccord surtout en général. Le solde migratoire, on ne sait pas ce que c'est. Demandez à un démographe comment il calcule le solde migratoire. On enlève les naissances, on regarde ce qui est rentré, on regarde ce qui est sorti. Mais ça ne veut pas dire que le solde migratoire, ça semble dire comme ça, vous savez, il y a beaucoup d'immigrés qui rentrent, mais c'est pas grave, il y en a presque autant qui repartent. Et ça, en fait, on ne sait pas qui part. Voilà, tout y a une chance. En France, nous ne savons pas qui quitte le territoire, nous savons qui rentre. Personne n'est capable de savoir qui quitte le territoire de façon définitive. C'est aussi tout ça dont il faut pouvoir un jour parler vraiment, c'est-à-dire avoir des vraies discussions. Je pense qu'une des erreurs que fait le président de la République et le gouvernement et la majorité, c'est de commencer par un débat sans vote. Qu'on nous présente un texte, qu'on nous dise voilà quelles sont les orientations que le gouvernement a décidé de proposer à la représentation nationale, et à ce moment-là, il y aura un débat vraiment.
Pour le débat du 30 septembre.
Je précise une chose, c'est que c'est un débat qui va porter notamment sur l'aide médicale d'État, qui est une aide qui est destinée aux migrants illégaux. Mmh. Et il y a, si j'ai bien lu, 330 000 allocataires aujourd'hui en 2019, Mounir Majoubi.
Alors ça sert à quoi un débat sans loi en effet ?
Alors Mounir Majoubi. Je rappelle qu'il y a eu une loi sur l'asile et l'immigration qui a à peine un an. Donc on a eu ce débat, on a voté, il y a eu une discussion publique, il y a eu des positions prises par le gouvernement et aujourd'hui il y a la mise en action. La mise en action, elle montre les limites de cette loi asile et immigration et elle montre la nécessité de s'organiser différemment. Ce qui va être à l'issue de ce débat, c'est quoi ? C'est une nouvelle façon pour le gouvernement d'atteindre plusieurs objectifs. Je les ai rappelés tout à l'heure. Le premier, c'est mieux intégrer ceux qui ont le droit à ce droit d'asile. Ceux qui bénéficient du statut de réfugié, il faut qu'on les accueille plus rapidement. Deux, il faut qu'on soit capable, et ça c'est très important, de donner et d'envoyer un signal fort sur la lutte contre l'immigration illégale. Ce que dit le président de la République, c'est que notre pays est un pays d'immigration, mais que dans un pays d'immigration, on souhaite pouvoir accueillir toujours plus d'étudiants étrangers, surtout les meilleurs d'entre eux. On souhaite pouvoir choisir une immigration économique, quels que soient les emplois, pas forcément les meilleurs. Il y a le passeport talent qui a permis d'accueillir plusieurs milliers de personnes déjà en France, on va en accueillir plus. Mais moi, ma famille, elle est issue d'une autre vague d'immigration, celle des années 70, qui étaient les travailleurs du bâtiment et les travailleurs de ménage. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'on reprenne la maîtrise. Mais quand vous dites immigration zéro, ça n'a jamais été l'objectif de la majorité de la République.
C'était une question hein, dans son
discours. Jamais ça a été notre objectif. Par contre, dire qu'on est recapable de maîtriser, qu'on ne subit pas, c'est très important. Parce qu'il y a un paradoxe.
Donc vous êtes sur les mêmes positions que Valérie Pécresse, par exemple, qui demande des quotas d'immigration par métier.
Je ne crois pas que la solution du quota par métier permet de traiter d'un paradoxe que nous vivons en ce moment et qui est très important. C'est que les flux sont certes en augmentation, mais ils ne sont pas si élevés que ça. Et pourtant, l'inquiétude chez les Français, elle, est très importante. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu plusieurs vagues migratoires ces dernières années qui se sont mal intégrées. Et aujourd'hui, les gens, ils voient deux choses qui les inquiètent. Les campements de migrants qui sont en bas de chez moi et qui sont aux portes de nos villes, Mais disons-le aussi sincèrement, on parle de 2000 à 3000 personnes. C'est très grave, c'est en bas chez moi, donc je peux vous dire que c'est très grave. Mais 2000 à 3000 à l'échelle de la France, on doit pouvoir résoudre ça d'ici la fin de l'année.
Oui, mais il y a d'autres chiffres qui circulent. Par exemple, les demandes d'asile en France ont augmenté de 50% alors même que le nombre de migrants a été divisé par 5 depuis 2015 en Europe.
C'est cette augmentation qui inquiète. Mais si on compare aux chiffres de 2014-2015, je peux vous assurer que là, on avait de plus grandes inquiétudes. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment les Français, comment ceux qui habitent ici sur le territoire vivent de façon plus heureuse avec ceux qui sont arrivés les 10 dernières années. Et il y a des questions d'intégration, il y a des questions d'apprentissage de la langue, il y a des questions qui doivent permettre à chacune de ces familles de dire à toutes les autres, nous sommes avec vous des habitants de ce pays.
Jacques de Guibon.
Oui, mais ça pose plusieurs questions. Je suis d'accord avec vous que il y a beaucoup de demandeurs du droit d'asile aujourd'hui en France. On se demande pourquoi, parce qu'ils sont arrivés sans doute avant en Europe dans d'autres pays, où il y a du détournement de droit d'asile, et ça c'est aussi une grave question en fait. Oui. Deux personnes qui sont des mineurs isolés soi-disant, mais qui ne le sont pas souvent, on le sait. Et une autre question en fait, sur celle dont vous parlez sur l'intégration, enfin moi je préférais l'assimilation, dire il y a des générations qui ne sont pas assimilées, est-ce que pour vous ça remet en cause la question du droit du sol automatiquement en fait? Parce que si elles ne se sont pas assimilées, on leur a pourtant donné la nationalité française, en général elles peuvent la demander à 18 ans quand elles sont nées sur le sol français. Est-ce que c'est une question, est-ce qu'il faut le remettre en cause en partie, comme on l'a fait à Mayotte par exemple, donc c'est possible en fait dans la République, et pour pousser les gens à s'assimiler ou s'intégrer, prenez le terme que vous voulez, est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause ce droit-là?
Eh bien la réponse sera dans la deuxième partie de l'émission.
Je suis africain. Africain du nord au sud, et je suis africain, dedans comme dehors, et je suis africain, et je n'ai pas le rythme dans la peau, et je suis africain, un albinos afro.
suis africain, signé Rachid Tahan, extrait de son album posthume aux propos toujours aussi brûlants. Alors, dossier immigration au programme du NRV ce soir, on en parle avec nos invités. Ils sont quatre, le journaliste Hervé Nathan, la juriste Violaine Carrère du GISTI. Le GISTI, je rappelle, c'est le groupe d'information et de soutien des immigrés. Mounir Majoubi, député de La République En Marche, et Jacques de Guibon, essayiste et rédacteur en chef de L'Incorrect. Alors, le discours actuel d'Emmanuel Macron crispe le débat sur l'immigration. Il a pourtant des airs de refoulé. Déjà de quelque chose qu'on aurait entendu quelque part, et notamment peut-être en septembre 97, dans la bouche de Jean-Pierre Chevènement, il était ministre de l'Intérieur.
Les tenants des papiers pour tous font semblant d'ignorer les pressions migratoires. Dans un monde traversé de déséquilibres majeurs, ils auraient tôt fait de ruiner les acquis sociaux de notre pays, tout en poussant les couches populaires vers l'extrême droite.
Donc ça nous a rappelé Jean-Pierre Chevènement.
Vous savez bien qu'il a démarré chevènementiste, Emmanuel Macron. Exactement. Il était un jeune militant du mouvement des citoyens dans sa jeunesse.
Donc... Et ça nous a aussi rappelé ça. Alors là, on est en 2010. Bien sûr, c'est Nicolas Sarkozy, son discours sur l'immigration à Grenoble.
Il faut le reconnaître, nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulées qui ont abouti à un échec de l'intégration. Peut-être faut-il se réveiller. Pour réussir ce processus d'intégration, il faut impérativement maîtriser le flux migratoire. Nous allons donc évaluer les droits et les prestations auxquels ont aujourd'hui accès les étrangers en situation irrégulière. Je ne parle pas des étrangers en situation régulière, qui ont naturellement le droit à des prestations, et ce serait un comble qu'il en soit autrement.
Julien Carrère.
Alors, réguler, gérer, maîtriser, c'est des vocabulaires qu'on entend en effet depuis au moins 30 ans, si ce n'est 50. Ce qui dit assez largement quel est l'échec de politique qui se donne ceci pour objectif. Et c'est vrai qu'on est dans des choses qui ne sont pas expliquées aux Français. Ce qui manque vraiment sur les questions d'immigration, c'est de la pédagogie faite à la population française. Et si on faisait cette pédagogie, eh bien, on saurait que, par exemple, la France, parce que d'un côté, on a le discours qui est la France s'enorgueillit d'être un pays d'asile, etc.
Des droits.
Et puis après, voilà. Et puis après, on nous parle de détournement, de contournement, de réseaux, de filières qui utilisent, etc., etc. C'est procédures, dispositifs, principes dont nous sommes fiers.
C'est pas pour autant faux. C'est vrai qu'il y a
La première chose à se demander, c'est qu'est-ce qui est vrai là-dedans? C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les chiffres de 2018, on a eu 124 000 personnes qui ont demandé l'asile. On peut se dire 124 000 personnes, c'est beaucoup. Je ne sais pas, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça dépend comment on l'estime. On peut dire que c'est pas un chiffre anodin, en effet. Mais après, on regarde ces personnes, quel est leur parcours? Elles vont s'adresser à l'OFPRA, qui va instruire leur demande. Si elles sont déboutées par l'OFPRA, elles vont faire un recours, le cas échéant, devant la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, qui va également instruire. Et au bout de ce processus, on a 35,9% de personnes qui reçoivent une protection, c'est-à-dire soit le statut de réfugié, soit la protection subsidiaire. 35% de 124 000, d'accord? Donc, voilà, il faut relativiser tous ces chiffres-là. D'autre part, lorsqu'on parle de chiffres, il faut jamais, jamais les distinguer. Ça, c'est quelque chose que François Héran rappelle très fréquemment. Qu'on compte les nombres d'entrées, les nombres de titres de séjour délivrés, les demandeurs d'asile, etc., avec la croissance de la population française. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui grandit avec des bébés qui naissent et qui grandit avec des migrants qui arrivent et qui grandit avec des personnes qui obtiennent un statut de réfugié, par exemple.
Hervé Nathan, j'ai pas l'impression quand même qu'on veut convaincre les Français en leur balançant simplement des chiffres.
Non, ça ne suffira pas.
Je crois que le querelle de chiffres, c'est effectivement un peu en dessous du sujet. Donc moi, ce que je voulais rajouter, c'est que moi, ce que j'ai entendu du début, enfin des annonces et puis la montée en charge vers le débat de lundi prochain, m'a rappelé plutôt le Nicolas Sarkozy en campagne électorale pour son premier mandat. C'est le Nicolas. Ça m'a rappelé la volonté de on a parlé, par exemple, on a évoqué les quotas. Le moment où le débat sur les quotas a lieu en France. C'est quand Nicolas Sarkozy arrive à la présidence de la République, constitue le ministère de l'Intérieur et de l'Identité nationale, qui est en charge de mettre en place effectivement les quotas. C'est une de ses missions. Ça va être un échec total parce que les meilleurs constitutionnalistes de la nation, avec un certain monsieur Mazot par exemple, madame Simone Veil, etc., vont dire c'est très simple, c'est totalement contraire à la Constitution et à peu près tous les engagements internationaux de la France. Par exemple, on ne peut pas discriminer à l'entrée en fonction évidemment pas de la couleur de la peau, non plus de la nationalité, etc. Et quand j'entends en ce moment revenir le débat sur les quotas, on entend dire on va faire, et je crois que c'est madame Valérie Pécresse, je voudrais faire des quotas par métier. Ouais. Très intéressant, ça existe déjà. Le problème, c'est que ça existe déjà, c'est qu'il y a une liste des métiers dits en tension, qui est la dernière, je crois, est de 2011. On pourrait la réactualiser. Il y a les métiers sur lesquels on peut recruter à l'extérieur du pays, enfin à l'extérieur de l'Union européenne, pardon, des non-communautaires pour le marché du travail intérieur français. Donc, d'une certaine manière, les quotas par métier, ça existe déjà. De quoi va-t-on discuter lundi de quotas qui existent déjà, de mesures par nationalité qui sont interdite par la Constitution, avec une majorité qui, de toute façon, est même pas capable de faire entrer l'indépendance du CSM dans la Constitution
actuellement.
C'est juste
un tour de piste
on est en train, petit à petit, aujourd'hui dans la presse, viennent d'autres mesures qui sont en train d'arriver, qui sont des mesures où on va demander plus d'argent pour le regroupement familial. Parce que, c'est-à-dire, on va demander aux gens qui sont c'est les informations de notre confrère du Monde de cet après-midi, où apparemment, le projet sorti par le ministère de l'Intérieur, c'est d'éviter, par exemple, que les immigrés pauvres puissent faire venir leur famille en France, puisqu'il faudra avoir des revenus suffisants. Il y a déjà une barrière, 1,1 le SMIC. Pour pouvoir prétendre au regroupement familial, là on va la mettre à combien, une fois, deux fois le SMIC, trois fois le SMIC, quel va être le niveau social auquel les immigrés auront droit pour vivre en famille. Ça risque aussi, il y a aussi un risque d'inconstitutionnalité. Voilà.
Jacques de Guibon.
Oui, moi je voulais juste préciser, je pense que selon les chiffres ou les tendances que j'ai aujourd'hui le regroupement familial, ça concerne plutôt en fait des mariages qui se font avec des personnes étrangères, c'est plutôt ça qui est en hausse aujourd'hui.
On est à la moitié. Oui.
Plutôt que faire venir sa famille. Son grand-père, etc. Mais voilà, enfin moi je vous rejoins sur quelles sont les mesures qui vont être prises. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On a eu une déclaration générale du président de la République qui pose le problème. On attend toujours de savoir en fait comment ça va être mis en œuvre. Moi, j'ai entendu des propositions de la part notamment de Guillaume Larrivé, qui est candidat à la présidence des Républicains, qui me paraissent extrêmement intéressantes, notamment sur l'attribution de certaines prestations sociales au bout d'un certain nombre d'années en France. Des limitations comme ça, je ne sais pas ce que la majorité compte en faire. Voilà.
Ce qui est frappant, c'est l'impression qu'on a, alors peut-être fallacieux, mais c'est ce que disent les chiffres, qu'il y a une montée inexorable. Alors je ne sais pas, peut-être n'est-ce pas le cas, Violaine Carrère, mais c'est vrai qu'on a cette impression-là, notamment les dossiers des demandeurs d'asile.
50% de plus en France.
On voit bien qu'il y a une augmentation permanente. Et on peut avoir l'impression, finalement, de se dire, mais ça va s'arrêter où? Et à quoi ressemblera, par exemple, si on part faire le tour du monde et qu'on revient dans 50 ans, à quoi ressemblera la France?
Alors, il y a un nom qui n'a pas été encore prononcé ici, c'est celui de Marine Le Pen, qui, bien sûr, sur ce sujet, a toujours des choses à dire. On l'écoute.
Il y a encore un sondage, mais un énième sondage sur l'immigration qui est intervenu, qui démontre que, à une immense majorité, les Français disent stop, maintenant on n'en peut plus. Voilà. Et malgré cela, ça va continuer. Voilà. On le sait très bien que ça va continuer. Alors, faisons un référendum. Oui ou non, le droit du sol? Oui ou non, le regroupement familial? Oui ou non, la maîtrise à nouveau de nos frontières? Ce sont des questions auxquelles les Français ont droit de répondre. Ils ont droit d'être interrogés parce que ça fait 30 ans maintenant, en réalité, qu'on mène une politique d'immigration qui est contraire à leur volonté.
Violaine Carrère.
Bien, je ne sais pas si c'est contraire à la volonté de la majorité ou une part importante de la population. C'est très très difficile de l'estimer. Ce qui est clair, c'est que les enquêtes d'opinion, on le sait, toutes les personnes qui travaillent là-dessus ont tendance à construire l'opinion et qu'on voit bien qu'il y a des fluctuations de l'opinion selon les déclarations des responsables politiques. Donc moi, je ne sais pas. Ce que je regarde aussi, c'est des choses qu'on n'examine jamais, dont on ne parle que très peu dans les médias. C'est par exemple que dès que se plantent quelque part quelques tentes d'exilés qui viennent d'arriver, il y a un comité de soutien qui se forme autour et toutes sortes de personnes qui viennent pour donner des cours de français, apporter des couvertures, du café, etc., etc. Donc la France entièrement xénophobe, non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. La France troublée, la France inquiète, etc., bien entendu, manifestement. Maintenant, quand on lui parle des solutions à cette France, de quoi lui parle-t-on? Lorsqu'on dit qu'on va réduire les droits sociaux des étrangers ou des étrangers en situation irrégulière ou des demandeurs d'asile ou
notamment
de quelques catégories.
Notamment cette aide médicale d'urgence d'État.
Aide médicale d'urgence d'État.
Attendez, quoi?
Je rappelle que ça n'est pas au cœur de nos propositions.
Ça a été retiré, en fait.
Ça a été retiré, mais ça faisait partie du débat du 30 septembre.
C'est toujours comme si ces droits-là, par exemple, l'aide médicale d'État, c'est toujours comme si c'était une chose dont, dans le fin fond de la Guinée-Conakry ou de l'Afghanistan, les gens se disaient, je vais venir en France, parce qu'en France, il y a l'aide médicale d'État. Soyons sérieux. Quand on regarde les nationalités des personnes qui demandent l'asile en France, on voit bien que ce sont des personnes qui fuient toutes sortes de choses, des guerres, des dictatures, des régimes qui créent l'inégalité sociale considérable, des victimes
peu,
de traite.
Comme disait d'ailleurs Macron, un peu curieuse.
Mais
quand les Albanais, les Géorgiens demandent l'asile, ce sont des pays qui sont réputés démocratiques.
Ce sont des pays qui sont classés dans les pays.
Ce
sont des pays qui sont classés dans la liste des pays d'origine sûre, en effet. Mais d'ailleurs, l'OFPRA et la CNDA, les institutions en charge de l'asile, s'occupent de ça. Et figurez-vous qu'il n'y a que 4,6% des Géorgiens qui obtiennent l'asile. Donc, peu importe le nombre de demandes, qu'est-ce qu'on veut au final? On fait confiance ou on ne fait pas confiance dans nos institutions? Il y a une instruction des dossiers et des personnes
mais
qui viennent de Géorgie
peuvent
se plaindre de la traite, peuvent se plaindre de discrimination.
Dans le cas des Géorgiens ou des Albanais, c'est pas parce qu'ils sont déboutés qu'ils sont renvoyés chez eux.
Ça, c'est peut-être une autre question.
Donc, on n'a pas confiance dans les institutions quand les juges cassent systématiquement en plus les renvois des demandeurs d'asile. En fait, c'est ça qui se passe en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer ces renvois parce qu'il y a toujours des juges qui disent non, en fait, il y a eu telle erreur, vous n'avez pas donné un sandwich à telle heure, en fait, il ne peut pas partir.
Renvoyer les déboutés de l'asile, c'est quelque chose que, pareil, tous les gouvernements ont brandi comme la prochaine mesure, la prochaine réforme, le prochain dispositif. La dernière réforme de septembre 2018 instaure tout un tas de mesures tendant à faciliter les choses à ce titre-là, en particulier la possibilité de maintenir des personnes en assignation à résidence ou dans des centres fermés, dans des pradas, dans des lieux dans lesquels on les a sous la main avec l'objectif de pouvoir les renvoyer plus facilement. Quelle est l'évaluation qui a été faite des résultats de cette réforme de 2018? On est déjà en train de nous parler plus ou moins d'une nouvelle réforme, même dont je suis d'accord, on ne sait absolument rien des mesures qui vont être mises en jeu. Aucune évaluation n'a été faite de la réforme de 2018, ni de celle de 2016. Mars 2016, c'était la précédente réforme du droit des étrangers, ni de la réforme de 2015 qui portait sur l'asile. Trois grosses réformes qui ont changé de façon vraiment profonde le sort des étrangers en France et des nouveaux arrivants comme des plus anciens, et aucune évaluation n'est faite, et on nous parle d'une nouvelle réforme?
Sur le sujet très spécifique des demandeurs d'asile qui viennent de ces pays sûrs. Aujourd'hui,
Pays sûrs, donc par exemple les Géorgiens et les Albanais.
Par exemple, aujourd'hui, sur ces deux nationalités-là et quelques autres, on a une très forte explosion du chiffre sur l'année en cours, sur 2018. Et donc, face à ces situations, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on a des personnes ici qui ne viennent pas chercher le statut de réfugié, ils viennent chercher le statut de demandeur. Parce que pendant cette période de plusieurs mois, ils vont pouvoir rester sur le territoire, bénéficier de certaines aides, de certains droits. Mais moi, je vais vous dire quelque chose de très sincère aujourd'hui. Ces personnes-là mettent en danger celles et ceux qui ont fui un pays en guerre et qui se retrouvent dans notre pays et qui ne peuvent pas être hébergés, qui ne peuvent pas être accueillis. Après, humanitairement, quand ils arrivent à Porte d'Aubervilliers en bas de chez moi et que c'est une famille géorgienne, vous croyez que je regarde dans les yeux et que je leur dis « Vous êtes une famille de Géorgiens, vous devez partir ?» La seule chose que j'aurais voulu, c'est qu'ils ne soient jamais arrivés là. C'est qu'on ait très tôt pu, avec ces pays qui sont nos pays... Quand on dit, par exemple, l'exemple de la Géorgie, c'est un pays partenaire géostratégique, c'est un pays partenaire politique, c'est un pays économique. Le président de la République et le Premier ministre ont reçu les plus hautes autorités, ils ont été reçus sur... On ne peut pas accepter qu'avec un pays comme celui-là, on ne soit pas capable, un, de protéger les personnes pour qu'elles n'arrivent pas dans notre pays, et deux, qu'on ne soit pas capable de les raccompagner chez elles.
Renatant,
à ce niveau-là de la discussion, ce débat va rebondir au niveau européen, parce que là où nous avons un problème, c'est que si nous avons par exemple beaucoup d'Afghans aussi qui viennent demander l'asile, c'est parce qu'ils ont été refusés soit en Allemagne, soit en Suède, et que c'est ce qu'on appelle les Dublinés, c'est-à-dire ceux qui ont été refusés ailleurs et qui viennent ici.
Non, pas refusés, n'ont pas admis à déposer une demande d'asile.
Oui, pas admis à...
Dublin, c'est ça. C'est on cherche quel est l'État responsable d'instruction de la demande. Donc les Afghans, quand ils arrivent en France, c'est éventuellement parce qu'ils sont passés par l'Allemagne ou par l'Autriche ou par un autre pays de l'espace Schengen. Dans ce cas-là, on va éventuellement examiner la possibilité de les renvoyer dans ce pays.
Il y en a aussi qui ont déposé des demandes qui ont été refusées, qui se retrouvent à faire des demandes en France aussi. Ça existe aussi.
Normalement, Dublin l'interdit.
Dublin l'interdit. Ça veut dire quoi? Vous pensez que les Allemands sont comme les Français quand ils ont refusé la demande d'asile de quelqu'un, ils ont aussi du mal à le renvoyer chez eux. Donc, ça permet à la personne de passer les frontières, de venir en France, de poser une demande.
Non.
Vous pensez que ils les mettent tous en prison. Donc
La personne pourra éventuellement venir en France.
Ceux qui n'ont pas le droit d'asile en Allemagne, ils sont tous dans les centres de rétention.
Les déboutés d'asile allemands par l'Allemagne pourront éventuellement venir sur le territoire français. Je ne dis pas le contraire. Mais ils ne pourront pas déposer une nouvelle demande d'asile à la France. Voilà.
Elle sera refusée, mais le temps que ce soit instruit.
Alors, elle est originaire de la Zambie. Elle y est retournée pour tourner son clip, le clip de Final Form. C'est la rappeuse Sampa, The Great, dans le NRV. The lace lady, travel with grace, baby. I can't afford to cover.
cover the course. Of course, maybe settle that one in court. Cause judging by the basics, y'all already comfortable, stuck up in the matrix. It's basic, patch credentials. But understand your favorite rapper, peep my gold potential. I'm out of shame, been past it. Trying to fit the circle cause I don't know how to act. Half of y'all was steady, insecure, don't try to backflip. Just because the seasoning and flow's already active. Only 4 years, fantastic. Young veteran, new classic. Now I knock the walls off. The whole key, we gon' hinge the whole door off. I'm still AD, never forget it. It's life after death, roll the credits. Credit my maker, take a trip to see Jamaica. Marley spirit with the vapor, back design, that's the nature. Africa, the new America, I hope I run this permanent. And this, I put my pen in, they got my land and my permit with it. Bone on my bone, flesh on my flesh. Greatness in me, you can't make me feel less. Less hold, I'm not impressed. Best smoke on my effort like an empress. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. What they started and we made it. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin.
Night Form, c'est signé Sampa the Great, un extrait de son premier album The Return, la programmation très actuelle manifestement de Jean-Baptiste Audibert.
Je pense que chacun était content ici de sortir de ce bidonville. Ce camp était tout sauf à l'image de la France. On était sans doute beaucoup plus proche d'une banlieue du Kurdistan irakien que de l'idée qu'on a des territoires français. Donc oui, il fallait mettre un terme à ce campement. La justice l'a permis.
Le nouveau rendez-vous.
Et à ces migrants, il leur sera proposé le droit français, tout le droit français, rien que le droit français, c'est-à-dire la possibilité de demander un asile, de demander un examen de leur situation, y compris pour ceux qui le souhaitent, de retourner dans leur pays.
Sur France Inter.
Dans leur pays, sur France Inter. Vous resituez ce son, c'est ça pour ça?
Oui, alors c'était le préfet du Nord, le préfet actuel du Nord, Michel Lalande, qui s'est exprimé il y a quelques jours.
Le 17 septembre.
Le 17 septembre, après la nouvelle évacuation du camp de Grande-Synthe. Et c'est marrant parce que la période actuelle, c'est aussi un anniversaire, puisque nous commémorons en quelque sorte le 20e anniversaire de la naissance du camp de Sangatte, 20e anniversaire depuis 1999, ce camp de Sangatte qui s'est transformé en ce qu'on a appelé, et c'est devenu très célèbre partout dans le monde, la jungle de Calais. Alors ça pose évidemment beaucoup de questions, parce que ça pose aussi la question du fait que beaucoup de migrants ne veulent pas rester en France, comme le faisait remarquer d'ailleurs Violaine Carrère. Et ici ils sont à Grande-Synthe et ici ils sont à Sangatte ou dans la jungle de Calais qui n'existe plus, c'est parce qu'ils n'ont qu'un désir, c'est quitter le pays pour aller vers l'Angleterre et ensuite vers une Amérique mythique. Il n'empêche que ça coûte énormément d'argent, tout ça. Aujourd'hui, il y a 100 000 familles qui bénéficient d'une allocation pour demandeurs d'asile, qui passe par une carte de paiement, je crois, hein, si j'ai bien compris, Mounir Majoubi, c'est ça?
Ça dépend des dispositifs. Ouais. Elle ne passe pas que par la carte.
L'allocation pour demandeurs d'asile, aujourd'hui, en tout cas, c'est un processus qui est en train de se généraliser, passe par une carte qui est une carte de retrait jusqu'à présent, mais qui est en train de devenir une carte de paiement, qui ne pourrait être utilisée que pour 10 paiements par mois par le ou la titulaire.
Et alors on dit que le coût de l'asile, c'est 1 milliard pour les demandeurs d'asile, et bizarrement, alors ça je n'y connais rien, mais 1 milliard pour les déboutés également. Donc il y a c'est ce qui est une somme considérable.
Mais aujourd'hui, vous avez donné l'exemple de Grande-Synthe. Vous savez, on est en France, quand on évacue un campement, on prend pas des pelleteuses et on met pas des grands sacs de sable et on vire les gens dehors. 100% des personnes présentes à Grande-Synthe ont été.
Mais non. Excusez-moi.
Mais
si.
Non. Non, je suis pas d'accord avec vous.
Et même
j'ai
à Paris.
Participé. À Paris, je viens toujours en tant que témoin, en tant que député à chaque fois qu'il y a une évacuation dans le Nord-Est. 100% des personnes, il leur est proposé de rejoindre un CAES, un centre d'accueil et d'examen des situations dans lequel ils sont logés, dans lequel ils sont protégés et dans lequel leur demande est analysée. Mais après, est-ce qu'il y a une autre réalité qui est que certains ne souhaitent pas y aller?
Non.
La réponse est oui.
Façon,
et cela,
pas 100% des personnes, ça je peux vous l'assurer. Et les hébergements qui sont proposés à chaque évacuation ne sont pas toujours des hébergements pérennes, et parfois il s'agit de 3 nuits d'hôtel dans un département très loin de Paris.
À Grande-Synthe,
et pas plus.
Prenons l'exemple de Grande-Synthe. Toutes les personnes qui n'ont pas décidé de fuir et qui sont restés le jour de l'évacuation ont toutes se sont toutes vues proposer un hébergement et l'étude de leur situation. Vous avez pris un extrait où le préfet a l'air de parler assez sèchement, le droit français rien que le droit français, tout le droit français. Juste avant cette phrase, il explique aussi que des autocars étaient présents, que les personnes étaient accompagnées par des associations.
Oui, mais ça c'était trop bien, c'est pour ça qu'on l'a
Et que leur demande allait être traitée. Mais je vais vous dire aussi quelque chose que j'admets complètement. Avant que ces autocars arrivent et avant que l'évacuation commence, vous avez quasiment un tiers des camps qui s'évadent dans la ville.
Et pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas la volonté de rester en France et de déposer une demande.
Aussi, mais parce qu'ils n'ont pas confiance non plus.
Oui, mais alors pour eux, je vous le dis assez simplement, ça fait partie des personnes aujourd'hui qui n'ont pas leur place en France. D'ailleurs, elles-mêmes considèrent qu'elles n'ont pas leur place en France. Elles ne souhaitent pas rester en France. Ou elles considèrent que le système
ne
peut
pas être... C'est absurde de les empêcher de partir. C'est vraiment une des absurdités du système.
Hein. Mais si on parle
de les empêcher de s'en aller alors qu'ils ne demandent qu'à partir, avouez que c'est...
L'objectif, c'est pas nous qui les empêchons,
Jacques de Guibon. Si. On fait le travail pour les Britanniques.
Ah oui, c'est ça,
nous faisons la police des frontières pour un État qui a décidé d'avoir quasiment aucun immigré venant par le Sud sur son territoire. Chose que d'ailleurs, nous reproduisons, nous, à notre frontière Sud, du côté de l'Italie. Ce que nous faisons subir.
Nous sommes les Anglais de l'Italie.
Et moi, je suis assez d'accord. Pour le coup, je suis assez d'accord avec M. Majoubi. C'est-à-dire, avec la réserve qu'effectivement, on offre en général quand même des hébergements, etc. Moi, je trouve absolument logique de pas accepter des abcès de fixation considérables. La leçon de la jungle de Calais, je pense, ça suffit. 10 000 personnes dans des terrains vagues, dans des conditions épouvantables. Je trouve, je veux dire, d'ailleurs, c'est pas ce gouvernement-ci qui l'a mis en place, c'était le précédent. Le fait d'avoir dit, maintenant, on va étaler, on va répartir sur le territoire en fonction des possibilités d'hébergement, les migrants, les demandeurs d'asile pour pouvoir éviter ce genre de donner le pouvoir aux mafias, parce que grosso modo, la jungle de Calais, c'est quand même le pouvoir aux mafias, et ce qu'on sait aussi, même si on a essayé de l'éviter à Grande-Synthe, il y avait aussi beaucoup d'affrontements entre nationalités, entre mafias, etc. Donc, on est dans une contradiction absolument insoluble, où d'une part, nous avons la police pour les Britanniques, pour quelque chose qui nous répulse, alors que nous reproduisons le même comportement à notre frontière avec l'Italie.
Jacques de Guibon.
Notons d'ailleurs que sur l'Italie, j'ai l'impression que le président Macron veut changer maintenant qu'il traite avec Monsieur Conte et plus avec ce méchant fasciste de Salvini. Tout d'un coup, il est plutôt d'accord pour la répartition des migrants que demandait avant l'Italie, en fait. Donc là, ça va a priori se passer mieux. Mais je suis d'accord avec vous ce que vous dites sur le fait que les personnes sont plutôt bien traitées en France quand ces camps sont vidés. Et heureusement, en fait, et c'est le devoir de la France une fois qu'elles sont là. Et on revient à la question que vous posiez tout à l'heure. En fait, comment ces personnes sont arrivées ici, en fait, et c'est évidemment, si on veut avoir une politique efficace à l'extérieur des frontières, qu'il faut commencer à mettre en place ce qu'on peut appeler des hotspots ou des endroits où on traite les demandes.
C'est ce que disait Le Monde là il y a quelques jours. Les États européens n'ont toujours pas trouvé de mécanisme pérenne pour le débarquement et la répartition des hommes, femmes et enfants secourus en mer. On n'arrive pas à s'entendre en réalité.
On fait beaucoup mieux. Les cinq dernières fois, on a réussi à s'entendre. Par contre, ce qui est absurde, c'est de devoir le faire. C'est très amateur, c'est artisanal.
On a réussi à s'entendre au cas par cas d'une façon, mais qui est d'un grotesque achevé. C'est-à-dire qu'on a la Suède qui dit j'en prends 5, l'Allemagne qui dit j'en prends 3, la France qui dit j'en prends 6, et la France qui dit c'est super parce qu'on a trouvé un dispositif d'harmonisation et de répartition.
On les laisse plus dans l'océan.
Vraiment, c'est pas mal de ne plus laisser dans la Méditerranée au bout d'éventuellement 40 jours de dérive à bord de bateaux où il manque de médecins et parfois d'eau potable. Donc on peut en effet se féliciter. Franchement, on est vraiment dans une politique qui est largement grotesque. Pourquoi est-ce que on ne déciderait pas, en effet, d'une politique dans laquelle d'abord on cesserait d'accuser les ONG d'être complices des passeurs, première chose.
Ça, c'est le discours, en effet, sous-tendu de Emmanuel Macron. Ouais.
Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on ne déciderait pas de prendre à bras le corps ce problème? Il y a des personnes qui sont en ce moment dans des camps dont tout le monde sait quel est le niveau d'indignité en Libye, par exemple. Comment ça se fait qu'on supporte cette situation et qu'on laisse faire les autorités libyennes qui tantôt en laissent passer, tantôt les emmènent jusqu'en Tunisie pour qu'elles puissent passer vers le canal de Sicile plus facilement et font de ça une espèce de monnaie de chantage? Comment est-ce qu'on peut supporter que des humains soient à ce point objet de chantage entre les États pour une politique de com visant à maîtriser les flux migratoires, nous dit-on.
Jacques Guibon, qu'est-ce que vous attendez, vous, du débat du 30 septembre prochain?
Ah, j'ai posé des questions tout à l'heure, mais on n'a pas répondu.
On va vous répondre pour ça, ouais.
Est-ce que, voilà, des questions plus fondamentales comme celle de pourquoi pas la remise en cause du droit du sol ou une autre politique d'assimilation ou d'intégration, en fait, voilà, qui est quelque chose aussi qui coûte cher à la France, qui est très compliqué, on le voit dans les écoles, etc. Enfin, voilà, c'est pas facile d'intégrer ou d'assimiler des millions de personnes qui se sont accumulées comme ça pendant des années. Et on le voit dans certaines écoles, au fait, où il y a plus, on n'arrive plus à enseigner réellement. Voilà, ce sont ces questions-là, à mon avis, qui devraient être posées aussi. Et si on n'a pas les moyens de faire ça, d'y répondre, en fait, en quoi on peut justement limiter cette acquisition de la nationalité française, quoi.
Tout ce débat sur l'immigration, je crois savoir, hein, j'ai pu lire que Emmanuel Macron voulait qu'il soit mis dans le débat national et que c'est son entourage, une partie de son entourage, qui a préféré évacuer donc ce sujet
de peur que
du débat national
phagocyte le grand débat national.
Parce qu'à l'époque, je vous rappelle, à l'issue de cette période que nous avions traversée, qu'on peut appeler la révolte des Gilets jaunes. Le sujet, c'était bien celui de la condition sociale, celui de la façon qu'on a d'habiter en France, partout sur le territoire, quand on est dans la classe moyenne. C'était pas le moment de venir parler d'un sujet qui est très important, mais qui n'était pas celui de la colère. Donc moi, j'ai trouvé ça très sain. Je faisais partie de ceux du gouvernement qui avait défendu l'idée de pas parler de ce sujet-là à ce moment-là. Je faisais le tour de France de tous les groupes de Gilets jaunes pour en discuter. C'était pas le sujet qui sortait en premier. Le Front National a essayé de manipuler les Gilets jaunes sur ces sujets-là.
Notamment.
Et ils se sont, notamment à Fréjus, qui est une ville FN, les Gilets jaunes de Fréjus n'ont pas parlé d'immigration.
Le mot de la fin, Hervé Nathan?
Le mot de la fin.
Oui.
Moi, j'aimerais bien, puisqu'on pose la question, ce débat sur quoi on aimerait qu'il débouche, moi, j'aimerais que le débat sur l'immigration redevienne une question sociale. Voilà. Je pense que la question qu'on ne se pose pas, ou pas assez, on parle beaucoup, on s'est beaucoup empaillé sur les chiffres des demandeurs d'asile et sur la manière dont les gens parviennent. Je pense que le problème principal, c'est les conditions d'intégration ou d'assimilation, c'est un mot qui me fait pas peur, des populations à long terme sur le territoire français, le fait que ce pays semble se fracturer, éventuellement se fracturer selon des failles qui sont des failles ethniques, religieuses, etc. Et ça, nous avons beaucoup de travail. Je pense qu'il faut revenir sur le travail sur les banlieues, parce que c'est là que sont ces populations, c'est là que se fait la cohabitation entre les populations qui sont là depuis longtemps et celles qui viennent d'arriver, que, par exemple, il serait temps de revenir au plan banlieue de M. Borloo, qui avait été balayé par le président de la République avec un entourage qui était tout à fait étonnant, comme un fétu de paille. Je pense qu'il faudrait revenir d'urgence et ce serait bon pour la nation.
Eh bien voilà, un bon mot de la fin, ou presque, parce que je vois que Christophe Bourseiller...
Oui, qu'a signé Laurent Goumard, quand même, nous sommes les Anglais de l'Italie.
C'est vrai, c'était pas mal. On va retrouver des vrais Anglais, des Anglais d'Angleterre, tout de suite, en live, avec Marion Guilbeault.
Ils ont leur carte de travail.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion Guilbeault, ils sont quatre, ils ont les cheveux longs, mais ce ne sont pas les Beatles.
Ah non, Temples, soit quatre jeunes Anglais dans le vent, ils viennent des Midlands, de Kettering, paraît-il. C'est la capitale de la chaussure là-bas.
Ils vont rester en France ?
Non, je pense pas, ils ont l'air d'être bien en Angleterre aussi, mais ils sont contents de venir nous faire un petit coucou, ils sont superbes. James, Thomas, Adam, Reigns, les quatre Temples, cheveux longs, costumes stylés, ils sont tellement beaux, tellement uniques, Laurent, qu'on dirait des licornes. Depuis quelques années, Temples incarne le pendant britannique du revival psychédélique qui secoue toute la planète pop. Temp Impala en Australie, Yako Garner en Hollande et Temples pour l'Angleterre. Guitare fuzz, oui, ça fuzz, voix ouais. Et synthé qui partent dans les éthers et un talent fou quand il s'agit d'écrire des hymnes comme celui-là. Shit. Doctor Song, c'était un des titres de Sun Structure, c'était le premier album de Temples en 2012. Alors tout le monde les adore hein, en Angleterre, que ce soit Johnny Marr, l'ancien guitariste des Smiths ou Noel Gallagher de Oasis, pardon. L'un comme l'autre, c'est pas vraiment réputé pour être les personnes les plus indulgentes du métier, mais voilà, ils les adorent. Il faut dire
et
que
qu'en pense Boris Johnson ? Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse.
On va demander à James, le chanteur. Il faut dire que Temples a su éviter tous les pièges, ni gardien du temple, ni roi du pastiche, juste Temples. C'est à vous, messieurs. C'est extrait de leur nouvel album du même nom, ça sort vendredi. Temple, c'est James, guitare, chant, c'est Thomas, basse et chœur, Adam à la guitare et au chœur. Et il y a un nouveau à la batterie, il s'appelle Rance. Ils vont être en concert au Trabendo à Paris, ce sera le 20 novembre. La prise de son, c'est Juliette Delperroux et Clément Vuillet, et ils reviennent demain.
Demain, mais Laurence, bien sûr, double dose. Christophe Boussery, ça vous a plu?
Ça m'a fait un peu migrer, si vous voulez, c'est un peu normal aujourd'hui.
C'est le but.
Merci à tous nos invités, merci Violaine Carrère, merci Mounir Majoubi, Hervé Nathan, on vous retrouve dans Alternative Économique et Jacques de Guibon dans L'Incorrect, merci à vous quatre. C'était le NRV, première partie, on se retrouve dans 15 minutes pour le NRV La Suite pour plus de France Inter, mais demain, au programme du NRV, ce sera qui, ce sera quoi?
Charlotte?
Charlotte, c'est son prénom. Perrian était son nom, designeuse engagée J-7 pour l'exposition à la Fondation Louis Vuitton à Paris, consacrée à cette femme libre du design. En live, Marion, vous venez de les annoncer.
Temples.
Le retour. Le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de nous écouter dès 18h, hein, sur franceinter.fr en podcast ou alors 22h, parce qu'on passe à la radio, oui, comme tout le monde. Et oui, Christophe Bourseiller. Le énervé, c'est Marion Lelay à la réalisation, préparation, programmation, j'espère bien, oui. Virginie Rouzic et Clémence Diligent. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes. Ce sera après le journal pour interpréter vos rêves grâce à Sigmund Freud. C'est au programme du NRV, la suite France Inter, plus de divan ce soir. A tout de suite.
Rendez-vous.